Ce qui m'a frappé chez Camille, c'est sa grande force mentale et sa volonté de s'adapter qui est là depuis qu'elle est toute petite. Chose qui a été testée quand elle est allée vivre au Cambodge. Je m'appelle Audrey Metcalf et j'ai la fibrose kystique. À cause de ça, on m'a souvent dit que j'étais donc courageuse ou que j'étais une source d'inspiration. Ben, j'ai eu envie d'inviter des gens qui vivent avec une différence et qui, eux aussi, se font souvent dire « je sais pas comment tu fais ». Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir la nouvelle animatrice de Ça me regarde, Camille Chai, qui a vécu son passage à l'âge adulte au Cambodge. Tout un choc, quand même. Salut, Camille.
Allô, Audrey.
Ça va bien?
Très bien, merci. Et toi?
Ben oui, je suis super contente que tu sois là.
Moi aussi.
Camille, le podcast s'appelle « Je sais pas comment tu fais ». C'est-tu quelque chose qu'on te dit souvent?
Oh que oui.
Ouais, hein?
C'est une phrase que j'ai entendue depuis étant toute jeune.
Puis à quel niveau on te parle de comment tu fais?
Ben, c'est beaucoup pour le détail technique de la chose, sachant okay. que j'ai seulement un bras, seulement oui. ma main droite et ma jambe droite. Donc, faut que je me souvienne, parce que je pense que même jeune, je l'entendais, même je pense que mes parents se faisaient dire « je sais pas comment vous faites, vous étant parent d'une
oui.
enfant handicapé ». Mais le « je sais pas comment tu fais » qu'on me dit à moi, c'est vraiment pour des détails du quotidien dont les gens ne sont pas nécessairement conscients, ce qui est normal. Mais quand nous, on vit avec une différence, avec un handicap,
ouais.
puis qu'on doit s'adapter, l'adaptation, c'est un peu notre expertise.
Mais oui, ça se fait tout seul.
Oui, c'est
pas
ça.
Le choix.
Ça se fait tout seul avec la volonté.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Et donc, ben moi, c'est ça. Donc, les « je sais pas comment tu fais », c'est « je sais pas comment tu fais pour attacher tes souliers, pour faire une boucle, parce que j'ai appris à faire une boucle à une main. »
C'est vrai.
Donc ça, c'est une chose. Puis c'est comme si je fais un tour de magie quand je fais la démonstration.
Oui, c'est
oui
vrai.
Mais parce que je développe j'ai développé une très grande dextérité.
C'est sûr.
Et tout comme un équilibre, par exemple, pour prendre ma douche, les gens disent « mais comment tu fais pour prendre ta douche à un bras et une jambe? » Parce que moi, je la prends, j'enlève ma prothèse de jambe.
Ah, ben oui.
J'ai
ben
une prothèse oui. de natation, mais je la mets pas pour prendre ma douche à chaque
okay.
fois parce que je suis paresseuse. Je veux aller au plus vite.
Ça, je te comprends.
Donc, je reste sur une jambe dans la douche, mais quand, par exemple, je dois me laver les cheveux, ben, on ferme nos yeux quand on fait le shampoing, normalement. Fait que là, je
ah,
me retrouve
oui,
sur une jambe, voilà, les yeux fermés et la seule main qui doit aller faire le shampoing. Donc, c'est, oui, un très bel exercice d'équilibre.
Ah, mon Dieu!
Ouais.
Toute ta douche, tout le long de ta douche, t'es sur une jambe.
Oui. Après, depuis certains temps, quand on vieillit, on essaie de faire les choses de façon un peu plus sécuritaire.
Oui.
Là, j'ai un banc dans ma douche et donc, pour prendre un peu une pause... Je vais pouvoir m'asseoir sur le banc, mais la plupart du temps, je reste quand même debout. Et je n'ai pas toujours un banc dans la douche, tu sais, si je ne suis pas chez moi ou quoi que ce soit. Donc, c'est des détails techniques comme ça, ou comme
oui.
attacher une veste, un zip.
C'est vrai.
J'ai appris à... En fait, moi, ça me passionne de parler de ça, parce que quand on parle de développer un équilibre, développer une dextérité quand on a des membres en moins, on devient très sensible à nos sensations et à tout ce qui nous entoure. Tous les matériaux, toutes les textures, pour moi, sont très importantes et ça ne me laisse pas indifférente.
OK.
Parce que, par exemple, une veste,
oui.
Selon le... Est-ce qu'elle va être élastique? Est-ce qu'elle va être, tu vois, plus souple ou raide? Ben pour moi, aller la zipper, je vais tenir le haut du manteau dans mon cou et ça va me permettre d'aller aligner, en fait, le zip après pour le faire. Donc, si le zip, il est de mauvaise qualité, par exemple, qui va être
oui.
plus dur à utiliser, ça va me donner plus de fil à retordre.
OK, fait que La texture et la composante, je vais dire, du vêtement va changer un petit peu ta technique.
Complètement. Et là, parce qu'on parle de vêtements, mais après, dans la vie de tous les jours, cuisiner à une main...
C'est tout, dans le fond.
Ben, tout, voilà, tout. Il n'y a pas d'exception.
C'est carrément tout.
Ben, c'est ça. Donc, pour moi, tout a une importance. Pour marcher aussi, ça va être la texture du sol. D'ailleurs, un énorme enseignement que j'ai eu très rapidement dans ma vie, c'est quand j'ai dû apprendre à marcher.
Ah ben oui,
mais
vrai.
Voilà, mais quand j'ai dû apprendre à faire mes premiers pas avec ma toute première prothèse de jambe, mes parents m'amenaient à l'extérieur pour me pratiquer. Parce que dehors, c'est la vraie vie, c'est le vrai monde. C'est pas
ouais.
comme apprendre à marcher à la maison où le sol est dégagé, où il y a pas d'obstacle.
Ben oui, t'es comme couvé un peu en quelque part. Là, ouais.
Voilà, exactement. Donc, quand ils m'amenaient à l'extérieur, ben ça m'arrivait souvent de tomber, ce qui est tout à fait normal.
Mmh.
Mais il fallait que je découvre c'était quoi la sensation du pied de ma prothèse, qui est un pied en plastique. Donc, j'ai vraiment pas la même sensation qu'en dessous de mon pied droit, qui me dit si c'est en pente, si c'est glissant, si il y a des petites roches, peu importe.
Oh, mon Dieu.
Donc, je sais pas comment tu fais. Oui, c'est vrai que les gens me posent très, très, très souvent la question et ça me fait plaisir d'y répondre à chaque fois.
Ben oui, puis important, dans le fond, je pense, d'oser répondre, d'en parler. Moi, je dis souvent, les préjugés viennent beaucoup de l'ignorance. Donc, plus on en parle, moins il peut y avoir de préjugés.
Moi, toutes les questions sont bonnes. J'adore qu'on vienne me poser les questions. Puis d'ailleurs, ça crée des réactions. Hein. Il y a des gens qui, ben, souvent avec des enfants, c'est quand eux remarquent ma différence et le disent à leurs parents ou me pointent du doigt.
Ah oui, ils n'ont pas de filtre, les enfants.
Ben exact, mais moi, j'adore ça.
Ouais.
Mais c'est les adultes qui se retrouvent à être mal à l'aise.
Tout le temps.
Qui vont un peu brimer l'enfant dans son élan de curiosité, de « Chut, oh, ça se dit pas » ou « Non, on va, tu sais, ça se fait pas de... » Non, moi, quand j'entends ça, je vais vers la personne
tout de suite
et je leur dis « Vous inquiétez pas » et je réponds aux questions. Je trouve que c'est très important.
Oui, je suis d'accord avec toi. Là, tu l'as dit, dans le fond, tu as... un bras à droite, une jambe à droite, donc pas de bras de gauche, pas de jambe gauche.
Exact.
Est-ce que c'est une amputation? Comment c'est arrivé?
Je suis née comme ça. Donc, je suis née sans bras ni jambe gauche. Je suis la première enfant de mes parents, sachant que j'ai un frère et une sœur
plus jeune
que moi. Quand ma mère était enceinte, ils ont fait une seule échographie. Je sais pas pourquoi.
C'est bizarre, ça.
Oui, voilà. Donc, ça a été une seule. Et la vie a fait en sorte que l'échographie a révélé seulement mon côté droit.
Qu'ils n'ont pas vu d'avance.
Ils n'ont pas vu d'avance. Il y avait une chance sur deux pour qu'ils soient prévenus à l'avance, mais personne ne le savait, ni mes parents, ni les spécialistes de la santé qui les suivaient pendant la grossesse. Donc, ça a été surprise.
C'est ça. Surprise. Quand t'es née,
voilà. Et l'infirmière... elle m'a tout de suite prise, elle m'a amenée dans une petite salle à côté, le temps de me mettre dans une couverture. Mon père a assisté à l'accouchement, évidemment. Donc, lui a remarqué, évidemment, tout de suite les détails. Il n'a pas eu le temps d'en parler à ma mère pendant les petites secondes de battement où j'étais avec l'infirmière de l'autre côté. Et c'est l'infirmière qui revient avec moi dans ses bras puis qui dit « Tout va bien, votre fille est en parfaite santé. » Mais elle dit « Il y a un petit problème. » Elle dit « Ben, il lui manque un bras. » Puis là, mon père, il rajoute, il dit « Oui, puis une jambe aussi.
» OK. Elle, elle n'avait pas vu.
Non, bien, on dirait, ou pas nécessairement, parce
que... C'est vrai qu'il y a un petit bébé, tu sais.
Voilà, exactement. Mais parce que j'ai une jambe, bien là, aujourd'hui, qui est plus courte, vraiment, de la moitié de ma jambe. Mais voilà, étant bébé, c'était peut-être un peu plus... Ça paraissait moins. Et bien, de là, ils se sont dit « OK, c'est juste un bras et une jambe. » Puis ça, là, c'est incroyable. Les gens, ils disent « Ah, toi, tu dis juste. C'est juste un bras et une jambe en moins. » Oui. C'était un détail technique, physique.
Ouais.
Et donc, mes parents se sont dit, ben, si elle a toute la volonté et tout ce qu'il lui faut...
Les bons outils, si on lui donne les bons outils.
Exactement. Ouais. Ben, c'est pas ça qui devrait la freiner dans la vie. Et ils m'ont dit qu'ils y sont allés avec moi vraiment au jour le jour. Parce que justement, les gens autour disaient, je sais pas comment vous faites.
Il y en a
qui disaient même, ah, vous l'avez gardé. Donc, il y a eu toutes sortes de commentaires.
On est confronté à ça, hein,
il faut être prêt. Voilà, quand on est différent, il faut être prêt à recevoir toutes sortes de questions, de commentaires.
Ouais.
Et évidemment, ils ont vu, ils se sont rendus compte eux-mêmes que quand ils me laissaient aller, ils m'ont fait confiance. Ben, ils ont vu, moi, la volonté que j'avais déjà toute petite. Ma mère, elle me disait, t'étais toute petite, mais on voyait la volonté que t'avais de quand un enfant rampe. C'est plus facile de ramper avec deux bras, deux jambes. Ben, dis-toi, elle dit, je voyais que tu forçais, tu t'appuyais déjà sur ton bras. Donc, elle dit, tu t'es musclé très rapidement.
C'est une adaptation qui se fait au fil du temps, en vieillissant. Donc, c'est sûr que ça a dû aider à tout ça.
Ben oui, parce qu'on veut,
à marcher de même.
Ben oui, on veut vivre.
Oui.
Peu importe la condition. Ben voilà, oui, c'est un instinct.
Ouais.
On veut, donc on le fait parce qu'on le veut. Et si ça prend plus de temps, et si c'est même des fois c'est frustrant, quand j'ai commencé à habiter seule, en appartement, toutes ces choses-là, là, c'était plus pareil.
Oui, ben c'est très challengeant, mais on y reviendra d'ailleurs.
Oui, oui.
Mais là, toi, dans le fond, là, tu commences ta vie d'adulte, tu as quoi, 19 ans en 2009? Tes parents décident que toute la famille part au Cambodge s'installer pour vivre là.
Oui.
Ton père est cambodgien.
Exact.
Ta mère est québécoise.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, ils décident, on s'en va au Cambodge avec les trois enfants?
Oui, avec les trois enfants et les deux chiens.
Et les deux chiens.
En fait, c'est ça. Mon père, il est français d'origine cambodgienne. Lui, il a vécu son enfance au Cambodge. À cause de la guerre des Khmers rouges, il a dû quitter. Fait qu'il a carrément laissé sa maison derrière lui. Ils ont dû quitter le pays in extremis. Et pourquoi on a décidé d'aller là-bas? Parce que mon père, à ses 18 ans, est venu faire ses études au Québec, là où il a rencontré ma mère.
Oui.
Donc, on a vécu toute notre enfance au Québec. Mais mon père rêvait de retourner dans le pays de ses origines, dans un pays chaud, ça nous faisait rêver.
Oui, je comprends.
Voilà. Puis ma petite sœur, je pense que c'est elle qui voulait le plus. Elle, depuis toujours, je me souviens, elle faisait des dessins où elle dessinait des palmiers, un avion, et elle mettait toute la famille dans chaque hublot de l'avion.
Oh, cute!
Oui, c'est ça.
J'étais destinée à retourner là-bas, finalement.
Oui, oui, quand même. Puis mon père avait cette envie, et avec son travail, ben, il a pu
le faire.
Oui, voilà, entreprendre, de dire, OK, on déménage et je vais pouvoir voilà, travailler, faire le même wow. travail là-bas.
On s'entend, le Québec-Cambodge, c'est pas comme Québec-le Vermont, mettons. Là. On s'entend-tu qu'il y a clairement un clash de culture, un clash de température, à plein de niveaux.
Totalement.
C'est quoi le plus gros choc, mettons? Là? Toi, tu sors de l'avion, tu arrives là. C'est quoi ton sentiment? Comment tu te sens?
Le premier, là, ça a été vraiment la chaleur.
La chaleur.
Qui a été envahissante. C'est wow. Puis moi, j'ai toujours chaud. Le fait que j'ai des prothèses, le fait que j'ai la moitié de mes membres, tu sais, puis les deux du côté droit, je compense énormément. Donc, oui, physiquement...
Tu forces tout le temps.
Exactement. Ben oui, je suis toujours en train de forcer, de surcompenser. Donc, la chaleur, j'ai fait « ouh là là ». Et je suis pas du genre à me plaindre, mais là-bas, j'ai commencé à me plaindre énormément de la chaleur, tellement que je me fatiguais moi-même. Et là, je me suis dit, là, Camille, ça suffit.
Tu te tapais ses nerfs.
Je me tapais sur les nerfs parce que j'ai beau me plaindre qu'il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, ça changera pas.
Non, c'est ça.
Voilà. Et donc, je me suis dit, OK, c'est mental. Et c'est aussi du travail mental, hein, la force mentale de.
Avec oui.
Ben, c'est ça.
C'est sûr.
Le handicap amène une force mentale.
Tout à fait.
Donc, je me suis dit, il faut que j'accepte cette situation. Et à partir de ce moment-là, c'est fou comment. Oui, j'ai continué d'avoir chaud, de transpirer, mais ça me dérange plus. Parce que j'ai appris à relaxer et à apprécier juste le pays, la réalité, la nouvelle vie. Donc, un gros changement qu'il y a eu, c'est que j'ai arrêté de porter ma prothèse de bras. Parce qu'une prothèse...
À cause de la chaleur?
À cause de la chaleur. Même les vêtements. Je veux dire, la prothèse, je l'ai portée ici toute ma vie. Mais c'était un petit peu contraignant au niveau des vêtements. C'est déjà, la prothèse, elle prend beaucoup de place. C'est collé à mon corps. Je n'étais pas vraiment confortable à 100%. Donc là-bas, je me suis dit, tu veux porter des robes, des petits chandails légers, des tops sans manches. Donc, la prothèse était plus envisageable. Donc, j'ai arrêté la porter et je me suis rendu compte que j'arrivais quand même à me débrouiller sans la prothèse, heureusement.
Mais là, moi, je t'écoute, puis... T'as-tu vu des gens aussi qui étaient en situation de handicap là-bas? Parce que ça aussi, ça doit être un autre choc. Là.
Oui.
C'est sûr que la réalité n'est pas la même qu'ici.
Bien, là, c'est ça, Audrey. L'autre choc, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, le Cambodge, c'est un pays qui a vécu la guerre de 1975 à peu près 1979. Donc, j'ai vu plein de personnes qui ont sauté sur des mines. Il y a beaucoup de personnes handicapées. Et ça a été un choc pour moi de les voir, parce qu'au début, je ne parlais pas encore la langue. Mais j'avais tellement envie d'aller leur parler. Mais en fait, c'était même pas nécessaire. Juste par le regard, il y avait une solidarité et une empathie où on se comprenait. Et même, j'étais gênée. J'étais gênée qu'eux me voient avec ma super belle prothèse de jambe.
Ben oui, qu'eux, assurément.
Qu'eux n'avaient pas du tout. Non, ils n'ont pas du tout la même aide au niveau prothétique.
Tu réalises un peu hein, la chance dans ce temps-là, peut-être, qu'on a ici.
Oui.
Qu'on, tu sais, souvent, on va... C'est correct, là, on va souvent voir qu'est-ce qu'on n'a pas.
Ouais.
Mais ça reste que de comparer comme ça, tu fais comme wow.
Bien, c'est ce que le Cambodge m'a amené. Ça, c'est encore plus une ouverture au niveau des yeux, mais du cœur aussi. Parce que j'ai... Déjà, mon handicap m'a amené à apprendre à m'adapter, à vivre avec un certain inconfort physique. Le Cambodge a rajouté une couche au niveau de l'inconfort, au niveau de devoir prendre sur moi. Il m'est arrivé plein de situations où j'étais inconfortable.
On s'entend qu'à l'âge que t'as, quand t'arrives là-bas, puis tu vis tout ça, t'es confronté à tout ça, t'es au début de l'âge adulte. Donc, il y a un écart qui est quand même important entre l'enfance et ce moment-là de ta vie où je pense que handicap ou non, on a tendance peut-être un peu plus à se plaindre, à trouver ça peut-être difficile parce qu'il y a beaucoup de changements qui se passent.
Oui.
Penses-tu que si tu avais vécu, je vais dire, ce choc culturel-là quand tu étais enfant, ça aurait été différent? Ça aurait été peut-être plus facile? Comment tu vois ça?
Je pense que oui. Le choc culturel et toute cette adaptation, je pense que ça aurait été plus facile si j'avais été plus jeune.
Oui.
Dans le sens que quand on est jeune, on est plus porté par nos parents. Donc, même les inconforts physiques que j'avais ou les efforts que je devais fournir quand j'étais jeune, mes parents étaient là pour compenser.
Oui, c'est ça.
J'avais pas, justement, toutes ces responsabilités de subvenir à mes besoins, de moi-même devoir faire à manger, moi-même aller faire l'épicerie. Quand on est handicapé, ou en tout cas, moi, c'est ma philosophie de vie, je sais que c'est la tienne aussi, on apprend à se battre.
Complètement.
Et on n'aime pas se plaindre parce qu'on veut aller de l'avant.
Ben oui.
Mais quand on vieillit, on dirait qu'on a, on, et même les gens autour de moi me disent, Camille, il va falloir que tu apprennes à te plaindre. Et je dis, quoi?
Je veux pas.
Ben non, t'sais. J'ai jamais voulu. Ouais. Mais les gens m'ont fait prendre conscience. Et c'est là que je suis encore en train de faire des apprentissages. Oui. Et je le comprends maintenant. C'est pas de se plaindre qu'on ait pitié de moi, mais c'est que notre réalité devient quand même plus difficile. Mon handicap devient plus lourd. Donc, mon discours change tranquillement. Il est déjà différent de celui que j'avais quand j'étais enfant ou même adolescente. Et ça fait du bien maintenant de parler des vraies choses, de parler des difficultés. Et ce qui fait du bien aussi, c'est pas de se faire répondre « Ouais, mais on sait, t'es forte, t'es capable, t'as toujours réussi. » C'est plus ça que je veux. Ce dont j'ai besoin maintenant, c'est une écoute, c'est une empathie, c'est plus de la douceur, c'est plus de me sentir comprise et accompagnée dans un moment difficile que je vais vivre. Et moi, mon plus gros enjeu en ce moment, en lien avec mon handicap, dans ma vie d'adulte, c'est mon rapport à l'énergie.
Ah oui, parce que tu vieillis, t'en as moins.
Ouais, et ça me rend très vulnérable d'en parler, alors que jamais j'avais ça avant. Moi, je suis forte, il n'y a pas de problème. Non, là, c'est une autre réalité. Ça me rend vulnérable parce que c'est difficile.
Mais t'es confrontée à tes limitations beaucoup plus.
Beaucoup plus. Et tu sais, il y a une chose que j'ai jamais dite avant, mais que là, je commence à dire, et c'est que des fois, je vois un peu mon handicap. Oui, je l'ai toujours vu comme ma force. Je l'aime, mon handicap. Il fait partie de moi, ça, c'est sûr et certain. Mais des fois, dans des situations difficiles, je me dis, c'est un drôle de mauvais sort quand même que j'ai reçu.
Mais tu sais, je pense que c'est correct des fois de trouver que c'est un peu injuste. Puis que oui, il y a une différence. Puis oui, on a des limitations. Puis des fois, oui, ça se peut que ça soit frustrant. Puis voilà. Que ce soit injuste.
Oui.
Que...
Moi, j'aime le mot différence.
Oui,
moi aussi, j'aime l'assumer, j'aime la montrer, ma différence.
Oui.
Et d'ailleurs, le fait de la montrer, même de mon pantalon, ma prothèse, les gens le voient, mais tout de suite, les gens vont être plus conscients, ils vont m'aider, ils vont être plus sensibles. Et ça m'aide. C'est ce que je veux.
Ben oui, puis c'est pas de la pitié.
Non.
Les gens vont souvent penser que ce sentiment-là de compassion va avoir l'air d'être de la pitié, mais c'est pas nécessairement ça. C'est extrêmement tabou, je crois, de dire ça, mais j'ai envie de le dire, puis d'oser le dire, parce que je suis convaincue que tu penses comme moi. Les enfants handicapés, les enfants différents, ont beaucoup plus d'empathie de la part de la société, de compassion.
Oui.
Parce que oui, c'est extrêmement touchant et extrêmement difficile d'avoir un enfant dans cet état-là.
Ouais.
Mais ça reste que, moi, je trouve, pour avoir vécu les deux, c'est beaucoup plus dur quand t'es adulte.
Totalement.
C'est bien plus difficile.
Merci, ça me donne des frissons. Ça fait juste du bien d'en parler.
Mais exact, on n'en parle pas assez, je trouve. Puis c'est... Je dis pas qu'il faut plus en avoir pour les enfants, c'est pas ça.
Non.
Mais... Moi, ma réalité d'enfant malade versus adulte, c'est incomparable. T'es enfant, tu t'adaptes. Oui, c'est difficile. Puis c'est sûr que y a probablement... Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants en situation d'handicap qui se sont fait intimider à l'école.
Donc oui, beaucoup.
Je veux pas diminuer ce que c'est. Mais quand t'arrives adulte, là, t'as plus tes parents en arrière de toi.
Non, faut que tu travailles. Faut que tu gagnes ton argent.
Exactement. Puis on s'entend que gagner des sous quand t'as ces différences-là...
Moi, je le dis, moi, faire un travail, là, comme tout le monde, 5 jours sur 7, de 9 à 5, c'est trop pour moi.
Moi aussi, exactement.
Mais ça me fait du bien, moi, de, par exemple, me faire inviter au... Tu sais, on parle de la nourriture, il faut se nourrir, il faut le préparer.
Ben
quand on est fatigué, on a la journée dans le corps, on parle de la surutilisation, tout faire ça à une main, je suis fatiguée à la fin. Déjà, juste mon shampoing du matin m'a un peu fatiguée déjà, dans l'énergie.
Et plus tu vieillis, pire, c'est...
Ben, c'est ça.
Ton corps change, ton corps évolue.
Tout.
Ça te fait-tu peur, ça?
Oui.
Ouais.
Je dois me l'avouer, j'y pense un peu quand même et je me dis, ouh, je vois que justement le corps est hypothéqué plus tôt que la normale. Donc, je vais être comment, dans quel état à 50 ans, 60 ans versus une personne qui n'a pas ça? Ça m'inquiète un peu, je t'avoue.
C'est ça. Je pense que pour tout le monde, ça devient plus difficile. Quand en plus, tu as une différence, un handicap, une maladie. Tu sais, dans mon cas, c'est une maladie qui dégénère.
Oui.
Mais évidemment, qu'en vieillissant, ça ne s'améliore pas. Donc, comment on deal avec tout ça, tu sais?
Ben, comment on fait avec tout ça? Moi, je pense... Ben, j'ai des choses, je pense, que je vais apprendre encore. Hein. Mais pour moi, ma richesse, c'est les gens que j'ai autour de moi. C'est mon mari, c'est ma famille, mes amis. Eux sont très conscients de ma condition et ça me fait du bien quand je leur parle à eux parce qu'eux savent au quotidien ce que c'est. Ce que, voilà, ce que c'est. Et je me dis, j'ai besoin de douceur, moi. J'ai besoin d'apprendre à prendre soin de moi. Tu sais, la femme forte, elle est là. Je l'honore. Mais la femme qui a besoin de repos, qui a besoin de douceur, de massage, de petite attention, de me faire faire un repas, de me faire inviter ou d'aller au restaurant, pour moi, c'est énorme. Ça m'aide. C'est un repas en moins que je peux prendre et savourer.
Oui.
Fait que c'est dans la douceur et les petites choses, mais d'être accompagnée des gens que j'aime. Pour l'instant, c'est ça mon...
C'est ça, solution. C'est ça, exactement. C'est ça ton remède, on va dire.
Ouais.
Puis est-ce que le Cambodge, c'est un endroit où tu voudrais retourner vivre? Parce que là, t'es visiblement plus au Cambodge.
Oui, j'aimerais.
Ouais.
Si c'est possible, si tous les projets le permettent. Tu sais, j'ai comme projet d'avoir un enfant. Ça fait quelques années qu'on essaie avec mon mari. Mais on aimerait beaucoup. Lui aussi adore le Cambodge. Si tout le permet, on adorerait retourner dans ce pays qui est très cher à nos yeux.
Puis où tu sais maintenant t'adapter, parce qu'on parle du corps vieillissant et tout, de ce qui s'en vient.
Il y a ça aussi.
C'est un autre challenge, mais...
C'en est un autre. On verra rendu là. Il y a toujours des options, mais oui, ce serait un très beau rêve.
Bien, c'est vraiment un bel objectif. En tout cas, je te souhaite de pouvoir tourner là avec un enfant.
Oui, s'il te plaît.
Avoir ta propre petite famille au Cambodge.
Merci beaucoup.
Puis merci d'être venue. Merci d'avoir partagé cette vulnérabilité-là avec moi.
C'était un plaisir.
Dans laquelle je me reconnais quand même beaucoup.
Merci, Audrey.
Pour découvrir les autres émissions d'Ami Télé, rendez-vous sur amiplus.ca. C'était Je sais pas comment tu fais. Recherche et animation, Audrey Metcalf. Invité, Camille Chai. Réalisation, Raphaël Mercier. Une production Ami Télé 2024.